France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et chaque samedi, nous nous intéressons au développement durable dans le secteur culturel. Comment l'art et les acteurs culturels participent-ils à un changement de valeur indispensable? Où en sommes-nous? Que reste-t-il à faire? Quel rôle pour les artistes, les collectivités locales ou encore le ministère de la Culture? Eh bien, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir dans Musique Matin Olivier Lerude, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de la Culture. Bonjour Olivier Lerude.
Bonjour Saskia Deville.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Un atelier consacré au développement durable était organisé dans le cadre des États généraux de la culture en octobre dernier. Vous participiez, Olivier Lerude, à une table ronde sur le même sujet la semaine dernière au salon New Deal organisé par la FEVIS. 20 millions d'euros ont été annoncés pour la transition écologique dans le plan de relance de pour la culture, justement. Alors quoi, Olivier Lerude, le développement durable, c'est désormais une thématique incontournable pour le ministère de la Culture?
Oui, alors je pense que ça l'a toujours été. Enfin, pour caricaturer un petit peu, quand on travaille dans le monde de la culture, que ce soit dans l'administration, comme artiste, sur une scène dans un spectacle, c'est parce que quelque part on s'intéresse à l'avenir de l'humanité, on s'intéresse à la place de l'homme sur la planète, on s'intéresse au temps long, à la transmission, toute dimension sociétale du développement durable. Et je pense profondément que la mobilisation du monde de la culture s'incarne dans cette dimension-là. Donc la culture s'y intéresse, il est donc normal que le ministère de la Culture s'y intéresse également.
Alors, évidemment, cette question, on le dit, hein, incontournable, et vous nous le dites aussi, Olivier Lerude, le développement durable, cela dit, n'est pas le cœur des politiques publiques de la culture. Y a-t-il des liens qui se sont établis, des liens peut-être plus étroits qui se sont établis ces dernières années entre ministère de l'écologie et ministère de la culture?
Bah déjà, il y a des liens institutionnels entre le ministère, donc en charge des politiques écologiques et de développement durable, et l'ensemble des ministères, par le biais de la fonction que j'occupe actuellement au ministère de la Culture. Il y a des hauts fonctionnaires au développement durable dans l'ensemble des ministères qui sont chargés de décliner, de relayer les politiques de transition écologique dans la spécificité de leur politique. Alors, au ministère de la Culture, après, on s'est organisé un peu en trois champs, c'est-à-dire il y a d'une part de l'interministériel assez fort, hein. Il s'agit de veiller à ce que les politiques publiques de la culture soient à leur juste place et respectées dans les politiques de transition écologique lorsqu'elles sont engagées et concernées. Il y a aussi une dimension ministérielle, c'est-à-dire comment nous au ministère, alors cette fois voilà, avec nos établissements publics, dans notre périmètre, nous pouvons essayer, à défaut d'être complètement exemplaires, de nous améliorer sans cesse. Et puis ensuite, il y a effectivement le rôle que l'on peut avoir vis-à-vis de l'ensemble du monde de la culture, hein, les acteurs associés, privé, public, les spectacles, tout ce tissu qui est extrêmement volontaire sur la question, qui a besoin d'être accompagné. Donc, nous essayons bien évidemment de soutenir l'ensemble de ces mouvements.
Mais alors justement, prenons par exemple une directrice de festival qui nous écouterait ce matin, qui souhaite faire une demande de subvention pour un projet lié à l'écologie dans le cadre de son festival de musique. À qui doit-elle s'adresser? Doit-elle aller justement toquer au ministère de la Culture ou bien à la porte de celui de l'écologie?
Alors là, vous mettez évidemment l'attention sur un angle particulier. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête au début, c'est que quand on a ce genre de projet, un projet qui mêle culture et développement durable, on est quelque part dans l'innovation. Nous sommes dans une période de transition, hein, de transition écologique, et donc il est normal qu'il y ait des ajustements qui se fassent. Pour reprendre votre exemple, quand vous montez un festival, si c'est un festival de musique, vous adressez à la DRAC, où il y a des gens compétents pour évaluer votre dossier, vous aider, vous soutenir le cas échéant dans des procédures très très élaborées. Mais si vous venez avec un dossier qui est un peu hybride, donc un peu innovant, avec un village des solutions, beaucoup de conférences, des librairies, etc., et puis un petit peu de musique aussi, on vous dira mais finalement votre projet n'est pas exactement un festival de musique, donc il ne rentre pas dans nos procédures. Allez plutôt voir les services en charge de l'environnement. Puis au service de l'environnement, on va dire oui, mais enfin là c'est un projet de festival, il faut aller voir les services du ministère de la Culture. Alors on essaye toujours évidemment de trouver des solutions, mais c'est vrai que là il y a encore des ajustements à faire, de façon à ce que ces projets innovants, qui sont en train de changer le monde, hein, là aussi pour essayer d'être un peu simple, trouvent progressivement leur place. Mais moi je trouve, et puis pour en discuter avec beaucoup de festivals très engagés dans le développement durable, voilà, comme les Transmusicales de Rennes par exemple, que ce sont des choses qui se font aussi de plus en plus facilement et qui avancent.
Cela dit, le droit de l'environnement, et je prends le contre-pied de ce que je viens de vous demander, Olivier Le Rude, le droit de l'environnement peut être à certains égards contraignant. Est-ce que cela peut représenter un danger pour la liberté de création ?
Alors, sur ce point-là précis, la loi LCAP de 2016 a posé dans son premier article, donc c'est écrit dans la loi française que la création était libre en France. Donc dans toutes les politiques que nous menons, c'est toujours le point de départ. C'est-à-dire que à aucun moment les contraintes normatives, environnementales, ne doivent empiéter sur la création artistique et sur la liberté de création des artistes. Après, les artistes vivent sur la même planète que l'ensemble des populations. Il est donc normal, d'une part, qu'ils respectent les règles de droit commun, hein, qui s'appliquent à l'ensemble des activités. Et quand je parle de règles, hein, c'est des règles de tri de déchets, dans un festival, dans un théâtre, dans un musée, etc. Donc, ces règles simples, pas en positionnement politique par rapport à la société, mais sur ces règles qui sont des règles de fonctionnement. Et puis surtout, et c'est là où je pense que la question de la liberté ne se pose pas vraiment sur ce sujet-là, c'est que s'ils sont libres dans leur création, ils sont aussi libres de créer de la manière qu'ils le souhaitent. Et ce que l'on observe par différents mouvements d'artistes, de créateurs, c'est qu'il y a un engagement extrêmement fort de la création en faveur de l'environnement, et que cet engagement se traduit par la recherche de pratiques innovantes, essayer d'organiser les tournées d'une autre façon, prêter attention à des externalités auxquelles on ne pensait pas avant, et qui finalement conditionnent aussi la qualité, la précision, la pertinence des créations. Donc nous sommes attentifs à ce que effectivement il n'y ait à aucun moment, quand parfois ça peut se poser des normes ou des règles qui viennent empiéter sur la création, mais je crois qu'aujourd'hui ce cap est correctement tenu.
Eh bien, ça tombe bien. Vous savez quoi, Olivier Le Rude, nous allons justement écouter un ensemble qui a proposé d'organiser ces tournées d'une autre façon. C'est l'ensemble Correspondance, ensemble très engagé. On en parle très régulièrement dans cette matinale. Je vous propose de les écouter ici aux côtés de Lucille Richardot.
Hills and oaks bowed down.
Orpheus sang Henri Purcell, Lucide Richardot, l'ensemble correspondance, Sébastien Dossé, ensemble correspondance très engagé sur la question écologique, je le disais. Disque paru chez Harmonia Mundi, en parallèle à ce spectacle Songs qui avait vu le jour en collaboration avec la compagnie La Vie Brève, qui est elle-même à la tête du Théâtre de l'Aquarium à Paris et qui est justement en train d'aménager 450 mètres carrés d'atelier pour y créer une matériothèque, mais aussi pour y mener des activités de fabrique et de construction durable, tout en accompagnant les équipes accueillies en résidence dans cette démarche. Nous sommes ce matin avec Olivier Lerude, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de la Culture. Alors, Olivier Lerude, comment proposez-vous concrètement d'accompagner le monde culturel dans cette transformation écologique ?
Alors, c'est d'abord accompagner le monde culturel, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est permettre à ses créations de s'épanouir. Et puis, comme vous le dites à l'instant, citant le théâtre de l'Aquarium, c'est aussi à un moment donné être capable d'aider le monde de la culture, dans toute sa diversité d'ailleurs, hein, au-delà du spectacle vivant, c'est aussi vrai des musées, de la création, des expositions, des industries culturelles et créative en général, d'en avoir les moyens. Alors, vous avez évoqué, par exemple, en début d'entretien, le plan de relance et les 20 millions qui sont consacrés spécifiquement à l'accompagnement de la transition écologique des équipements de spectacles vivants. Donc là, par exemple, il s'agit d'une somme qui a été mobilisée dans le cadre du plan de relance, une somme mobilisée sur 2 ans, pour permettre à des projets, donc soit de mise aux normes, soit de réhabilitation, de restauration de salles qui en ont souvent bien besoin, de se faire plus vite, de se lancer simplement quand parfois le tour de table était bloqué. C'est évidemment en contact avec les collectivités territoriales qui sont souvent en charge de ces salles. Et mercredi dernier, le ministère donc a sorti le communiqué de presse avec l'ensemble des projets qui seront aidés à ce titre. Donc il y a une dizaine de salles réparties en France, hein, par souci d'équité, qui ont été repérés par les services déconcentrés du ministère et puis instruits ensuite par les services compétents, et qui vont être soutenus pendant l'année, dès tout début janvier, hein, les crédits sont là pour pouvoir faire leurs travaux. Après, ça peut être aussi aider le monde de la culture à avoir accès plus facilement, par des conseils, y compris administratifs, à l'ensemble des moyens d'être aidés pour assurer sa transition écologique. Et là, je pense en particulier, toujours pour revenir au plan de relance, qu'il ne faut pas que les acteurs culturels oublient que dans le plan de relance, il y a un tiers du plan, donc environ 30 milliards d'euros qui sont consacrés consacrée à des dispositifs de transition écologique et que un établissement culturel, comme tout autre établissement, s'il est éligible spécifiquement aux aides du ministère de la Culture, l'est aussi selon les dispositifs, son statut, l'est aussi donc sur l'ensemble du plan de relance. Donc je crois que voilà, il faut pas rester dans sa tour d'ivoire, mais bien se mettre dans une transition globale et puis après le ministère lui-même essaye voilà de pousser au développement de formation, d'aider à la montée en compétences. C'est un peu tout le sens de notre action.
Alors Olivier Lerude, hein, vous nous en parliez en quelques mots tout à l'heure, hein, avant même la naissance du Centre National de la Musique, vous aviez déjà travaillé sur une réorganisation de la grille de lecture des critères d'attribution de subventions pour prendre en compte ce développement durable. Est-il prévu dans un avenir plus ou moins lointain de contraindre le milieu artistique, en quelque sorte les employeurs?
Alors, en utilisant le mot contrainte, évidemment, que ce soit les employeurs ou les artistes, ça a un effet sur la création. Donc, c'est un champ dans lequel nous ne souhaitons pas nous engager, en tout cas pas de cette manière-là. En revanche, il est évident que pour les trois grands opérateurs sectoriels, hein, le Centre national du livre, le Centre national du cinéma et donc le tout nouveau Centre national de la musique, hein, qui apporte des soutiens sélectifs, il est important à un moment donné, et c'est leur volonté aux trois de réfléchir à un système qui permettrait d'aider à la transition, mais tout cela sans déséquilibrer l'écosystème économique qui est souvent fragile, sans déséquilibrer la liberté de création et en permettant à ces politiques de soutien qui ont fait leurs preuves de se poursuivre. Donc évidemment, on en vient tout de suite un peu à la question d'éco-conditionnalité, mais qui s'applique assez mal à la spécificité de la création culturelle. Mais c'est quand même dans ce champ de thématique qu'il faut réfléchir. Aussi la question des bonus. Du coup, qui dit bonus dit peut-être éventuellement bonus-malus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les opérateurs actuellement réfléchissent à une mise en visibilité plus forte dans leur politique de cette démission de développement durable, qui n'est pas inexistante. Hein. Vous parliez des travaux enfin, qui étaient menés en fait, par le Centre national des variétés avant la création du CNM, qui a effectivement réorganisé sa grille sans toucher à ses équilibres de soutien, de manière à bien mettre en évidence et par là sensibiliser les candidats au soutien, au fait qu'il y avait déjà énormément d'éléments, de critères, de sous-critères qui ensemble dégageaient une politique RSO assez claire. Donc c'est un sujet qui mérite une forte attention parce qu'il s'agit évidemment avant tout de permettre à la création d'être soutenue, mais qui est effectivement en réflexion auprès des opérateurs et puis en administration centrale également.
Olivier Lerude, fonctionnaire au développement durable au ministère de la Culture, des questions sur lesquelles nous resterons bien évidemment très très attentifs, auxquelles on restera très attentifs ici dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Et puis à très bientôt sur France Musique. Olivier Lerude, je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.
À réécouter sur francemusique.fr.